France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. en public, depuis l'Opéra de Nancy à l'occasion du festival Le Livre sur la Place. Aujourd'hui, trois écrivains qui sondent les silences, l'absence et la mémoire géographique.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
On retrouvera d'abord Antoine Wauters qui publie « Haute folie » chez Gallimard. Tout commence par l'incendie d'une ferme, un lieu maudit qui donne son titre au roman. Joseph, né dans le chaos, grandit en errance pour revenir un jour à ce lieu d'où tout part. « Haute folie », c'est une fable poétique, tragique sur la filiation, l'impossible fuite et la nécessité de nommer ce qui est tu. Avec nous aussi, Léonore de Recondo, qui publie « Marcher dans tes pas » chez l'Iconoclaste. Elle y retrace l'exil de sa grand-mère en 1936, fuyant la guerre d'Espagne pour passer la frontière à Hendaye avec ses enfants. Cette histoire se mêle à une démarche contemporaine, la demande de nationalité espagnole permise aux descendants d'exilés républicains. Léonore de Recondo fait tenir ensemble l'archive et l'intime pour rendre présents ses ancêtres, faire habiter les terres de fuite, les chemins parfois invisibles de l'exil. Et enfin, le local de l'équipe, le Lorrain, Daniel Bourion, avec Le pays dont tu as marché la terre aux éditions Héloïse d'Ormesson, un premier roman magnifique qui explore une géographie intime. Le narrateur retrace les trajets, les rues, maison d'un ami disparu, non pas sur une carte, mais dans les interstices des souvenirs et des paysages. À mesure que la marche avance, les paysages deviennent mémoire et la topographie une manière d'archiver l'absence. Trois livres, trois écritures, mais une même quête. Comment donner voix à ceux qui ne sont plus là, mais qui continuent de nous habiter? Nous en parlerons avec nos invités, donc, et avec notre libraire du jour, Vivien Bridel, libraire de Nancy, forcément. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Et bonjour au public de l'Opéra de Nancy. Léonore de Recondo, Antoine Wauters, Daniel Bourion, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Je le disais, vos livres ont en commun de naître d'une absence. Chez vous, Léonore de Recondo, c'est une grand-mère qui fuit l'Espagne en 1936 et dont il vous reste des bribes d'archives. Chez vous, Antoine Wauters, c'est un père mutique, orphelin d'un incendie, dont le fils reprend les carnets. Et chez vous, Daniel Bourion, c'est un ami disparu dont vous refaites les trajets. Ma question est la même pour vous trois. Qu'est-ce que l'écriture permet réellement de retrouver, Léonore de Recondo?
Je pense que l'écriture, elle permet de rendre vivant quelque chose de la trace. Les personnages de mon livre sont morts. En écrivant sur eux, non seulement je les rencontre, mais je vais à leur rencontre et en les écrivant, ils sont vivants, ils sont avec nous.
Antoine Wauters?
Ouais, c'est proche de ce que Léonore dit. Moi, je dirais que c'est dialoguer avec l'invisible. Écrire, c'est un trait d'union entre ce qui est là sous nos yeux et ce qui a cessé d'être visible. Voilà, faire remonter ces choses-là.
C'est aussi dans votre livre la question du silence que je disais en introduction. C'est vraiment, vous avez écrit un livre sur ce qui est tu, ce qui est caché. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de redonner une voix?
De redonner?
Une voix.
Ah ben oui, complètement. C'est un texte qui parle des secrets de famille et du moment où, dans une lignée un peu maudite, quelqu'un va se lever pour dire tout ce qui a toujours été tu et qui nous a fait du tort. Je vais essayer de le raconter. Moi, je crois qu'en littérature, mais dans la vie, quand on garde des choses pour nous, ça fait des nœuds, ça fait des maladies, ça fait des vies qui ne sont pas libres. Et l'histoire de Haute Folie, c'est ça. C'est le moment où quelqu'un va dire notre histoire, je vais la raconter, et j'espère que grâce à ça, on pourra trouver une forme de vie apaisée.
Daniel Bourion, vous posez une question bouleversante et vertigineuse à la fois dans votre roman, je vous cite. Se demander pourquoi, comment deux personnes nées en même temps et au même endroit, amies, voient leur trajectoire diverger tellement qu'elles finissent par être inconnues.
C'est la question que se pose le narrateur, qui est quand même largement inspiré de moi-même. C'est un aveu que je fais publiquement.
C'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous.
Si, c'est inspiré en grande partie de ma vie. C'est quelque chose qui continue de m'interpeller, c'est-à-dire vraiment littéralement le personnage principal du roman et le narrateur naissent à 200 mètres, enfin vivent à 200 mètres l'un de l'autre, à peu près dans le même milieu. Et à quel moment l'un se voit offrir des chances ou voit des chances que l'autre ne voit pas et parvient à s'extraire d'un milieu qui pourrait le conduire à la marge ou à en sortir.
En vous lisant, je me suis dit que c'était aussi le cas dans les fratries. On aurait pu exactement poser la même question, ce qui fait que deux frères, deux sœurs, enfin, voilà, dans une famille aussi, c'est souvent le cas, des trajectoires qui divergent, alors qu'a priori on a eu la même éducation, on est né au même endroit.
Ouais, bah, c'est une question transversale à la fratrie, à l'amitié aussi, puisque là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'amis d'enfance. Quand on est, enfin, à des âges relativement jeunes, les amis, c'est des frères en fait. Donc on est effectivement dans une thématique de fratrie.
Et est-ce que vous avez trouvé la réponse ?
Ben non, parce que je ne suis pas sociologue. Je pense qu'il y a quand même une grosse question sociologique et politique. Alors, ce n'est pas du tout... Je n'écris pas un livre politique. Tout ce que j'écris, c'est... S'il y a des questions, elles sont dans le texte et je ne viens pas apporter un message. Je préfère amener le lecteur ou la lectrice à se poser ces questions-là. Mon enjeu...
Qu'en écrivant, à force de se poser des questions, on a des bribes de réponses qui naissent par l'écriture ?
Non, vraiment, en toute honnêteté, non. Et j'en ai d'autant moins que j'ai été conseiller d'éducation, CPE, donc j'ai côtoyé plein de gamins, ce qui n'est pas péjoratif, et de gamines, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Et j'ai bien vu ces trajectoires qui divergeaient, et malheureusement, j'ai pas de réponse. Si j'en avais une, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes et de scolarité un peu chaotique.
Il y a un autre point commun dans vos livres, c'est la marche. Léonore de Récondo, votre roman s'appelle « Marcher dans tes pas ». Daniel Bourion, votre titre, c'est « Ce pays dont tu as marché la terre ». Et Antoine Vauters, vous écrivez « La marche rend liquide mes peurs, je ne suis jamais autant vivant que quand je marche ». Quel lien faites-vous entre la marche et l'écriture, Antoine Vauters ?
Marcher, c'est toujours marcher deux fois. C'est marcher dans des lieux physiques, dans des paysages qu'on voit. Et puis c'est aussi marcher dans nos territoires intérieurs. Moi qui ai passé des années dans des espèces de... Alors, haute folie, c'est ça aussi, c'est un lieu, mais c'est aussi l'idée d'une famille qui peut être frappée par la folie. Moi, j'ai eu des moments, pas de folie, mais de grande dépression, et la marche m'a sauvé la vie, en fait. Quand je partais marcher de longues heures, je sentais physiquement à chaque pas que mes angoisses se trouvaient cassées, pilées en petits morceaux. Et dans ces moments-là, il n'était pas du tout question d'écrire ou d'écriture. Donc la marche m'a vraiment aidé, mais c'est vrai qu'il y a un lien, parce qu'il y a un truc aussi spirituel dans le fait de marcher. On se relie à quelque chose, comme dans l'écriture, on se relie à quelque chose qui est à la fois extrêmement intime et plus grand que nous-mêmes. Et je crois que l'écriture, c'est toujours un peu ça, quoi. Léonore parle des fantômes du passé, dans un super passage aussi où elle parle des pas de la marche et du fait de porter les fantômes. Je crois que c'est ça dans les deux cas. Marcher, écrire, ça converge.
Vous me faites une transition parfaite. Léonore de Récondo, effectivement, on trouve la même idée dans votre livre. Vous écrivez à un moment, aussi fugace soit cette mémoire, elle s'inscrira dans ce chemin que je foule, ou inversement, ce sera ce chemin qui creusera ma mémoire.
Oui, il y a un effet comme ça... boomerang. Et puis dans le cas de ma famille, la marche, c'est aussi la perte d'un territoire, c'est-à-dire là il est question d'exil. Donc tout d'un coup, des territoires qu'on a pu arpenter sans problème, librement, nous sont interdits. La marche, parfois, elle est vertigineuse. On marche ailleurs, on marche et on s'interdit ce qui est derrière nous.
Et c'est aussi la possibilité du retour.
C'est la possibilité du retour, bon, tardivement, puisque là c'est 40 ans plus tard. Et moi, marcher sur leurs pas, dans les pas de ma grand-mère, dans justement cette frontière, puisqu'ils vivaient au Pays Basque, à la frontière espagnole et française, pouvoir marcher sur cette frontière, passer d'un côté de l'autre librement, c'est fou, parce que dans l'histoire des pays, il y a des moments où on a le droit et des moments où on n'a pas le droit. Il y a des moments où on est en vie, heureux, en passant cette frontière, et il y a des moments où on peut la perdre en la passant. Et donc, la marche, évidemment, c'est quelque chose qui nous permet de connaître un territoire en l'arpentant, mais aussi, là, dans ce cas-là, c'est politique.
Daniel Bourion, vous, c'est pas politique, on l'a bien compris. Est-ce que marcher aide à se souvenir ?
Oui, et je vais recroiser avec ce qu'évoquait Antoine, c'est-à-dire l'écriture et la marche et l'écriture se rejoignent au sens où, pour moi, écrire, c'est aussi marcher dans des espaces intérieurs. Finalement, écrire, c'est retrouver des espaces intérieurs qui sont des souvenirs. Et je fais un parallèle vraiment sur ces deux activités. Et je pense également qu'à des meilleurs remèdes à la plupart des maux qu'on peut avoir, c'est juste de prendre une paire de chaussures, quelle qu'elle soit, et d'aller marcher dans la gadoue, en fait.
Si seulement. Léonore de Récondo, Antoine Vauters, Daniel Bourion, quand on revient, on parlera d'une question qui traverse vos trois textes, la question de la langue, celle qu'on perd, celle qui nous résiste et celle qu'on invente. Mais avant ça, on écoute Amzan Bayron Messia, Location.
wake up. J'fais la graille comme un alligator. Il faut ma zaza dès que j'wake up. Un nouveau rose rose garé devant le gator. One your ways, baby, twist your body. J'suis prêt à payer cher juste pour goûter Spunani. J'suis un pétard, j'me sens comme un Afghani. Poker face, bébé, pour toi j'mets tapis. Hey, hey, quand c'est parti, y'a pas de ralentir. Elle est sexy, elle a pas besoin de mentir. Avec elle, j'veux pas bâtir un empire. Hey, hey, elle veut rentrer avec moi, why not? Baby, j'veux devenir my love. Why not? Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle whine comme personne. Bad girl dans ma section, cœur brisé, j'les collection. C'est qu'il a comme Jason, elle whine comme personne. Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle whine comme personne. Bad girl dans ma section, cœur brisé, j'les collection. C'est qu'il a comme Jason, elle whine comme personne.
Hello, top tier, a bad bitch. Top class, wine for me, baby. You pass fat, pussy at the tightest. Wine for me, baby. Hey, baby, your body phenomenal. The way you wind up, we are cannibal. How are the honey, where the weed, the party ram. Wine for me, baby. Every man to a girl, no man to man. She want pop pill, go in a Zambilan. Dear people, I left in an ambulance. Wine for me, baby. So you want go shopping Paris. Lobsters and calamaris. Heartbreak, I'm mentally damaged. Sorry, beers, but me can't do marriage. You know, see how we are roll like passes. We are Rovers and Ferraris. Bonjour.
Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle whine comme personne. Bad girl dans ma section, cœur brisé, j'les collection. C'est qu'il a comme Jason, elle whine comme personne. Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle whine comme personne. Bad girl dans ma section, cœur brisé, j'les collection. Il a comme Jason, elle whine comme personne.
Elle whine comme personne. Whine for me, baby.
Vous écoutez Au Livre, etc., une émission joyeuse, décidément, aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de Léonore de Récondo, Antoine Vauters, Daniel Bourion et de notre libraire du jour, Vivian Bridel, qui travaille à la librairie Le Hall du Livre à Nancy, où nous sommes en public à l'Opéra de Nancy, à l'occasion du festival Le Livre sur la Place. Bonjour Vivian. Léonore de Récondo, dans Marcher dans tes pas, vous entreprenez une quête pour suturer. Le mot est de vous, vos liens familiaux et obtenir la nationalité espagnole. Comment avez-vous cherché, je pose une question d'un point de vue vraiment narratif, à tresser ces deux quêtes, à la fois celle du passé et celle du présent?
En fait, ça s'est imposé à moi, la forme du livre qui est un peu hybride entre le romanesque, l'adresse et la poésie. C'est ce livre, j'ai tendance à dire qu'il est arrivé un peu par effraction, puisqu'en effet, j'ai démarré les démarches pour obtenir cette nationalité suite à une loi qui a été promulguée en Espagne en 2022, qui s'appelle la loi de la mémoire démocratique, et qui est une forme de réconciliation, puisqu'elle permet aux républicains qui ont été déchus de leur nationalité quand ils se sont exilés de la récupérer à travers leurs enfants. Donc c'est mon cas, des enfants et petits-enfants. Et quand je démarre cette démarche, on me demande toutes sortes de papiers, comme vous pouvez imaginer. Et on m'en demande un qui me révolte sur le moment, qui est celui d'un justificatif de l'exil que je n'ai pas, évidemment, puisque quand ils partent en pleine guerre civile, au début de la guerre civile, en 36, quand ils traversent ce pont, personne n'est là pour tamponner un papier. Donc je n'ai que ce qu'on m'a raconté. Et on est tous faits de ces mythologies familiales. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, cette vérité que j'ai cherché à dire de ce qu'on m'avait raconté, elle s'est imposée à travers ces formes-là. D'abord, une adresse à ma grand-mère, qui est celle qui fait ce geste fondateur de l'exil de partir. La démarche, qui est une écriture plus de prose, plus classique, on va dire, comme une forme d'enquête. Et puis, la poésie, qui est au cœur de la littérature et qui est celle qui vient exploser les générations et nous rendre toutes et tous fantômes.
Vivian, vous avez lu Le livre de Léonore de Récondo. Est-ce que vous le conseillez dans votre librairie ?
Absolument.
Si, j'aurais adoré que vous répondiez à non, pas du tout.
Ce serait terrible. Je saboterai l'émission une autre fois.
Vivian, vous sortez.
De toute façon, j'ai aimé les trois auteurs qui sont ici. De toute façon, heureusement.
On vous a choisi pour ça.
Oui, exactement. J'étais embauché exprès pour ça. Non, pour le coup, je conseille effectivement tout particulièrement le livre de Léonore. Pour rebondir effectivement sur ce que vous venez de dire, c'est vraiment cet aspect foisonnant qui m'a plu, tant au niveau de la forme, où on a des passages presque de fiction, puisqu'au final, vous remontez le trauma familial, où vous ne pouvez pas avoir des témoignages directs, donc de ce côté-là, vous servez dans la fiction, mais également vraiment votre parcours à vous pour tenter de montrer votre appartenance à l'exil, et enfin, effectivement, ces pages de poésie pure, où vous nous parlez d'horreur, mais également de lumière, et du travail de mémoire, et justement c'est moi en tout cas, en tant que libraire, c'est ce travail de mémoire qui m'a beaucoup plu, puisque, alors peut-être d'une manière anecdotique, à un moment dans le roman, vous parlez d'une petite singularité linguistique de la langue basque, où, alors, pour vous citer, à la page 200, vous dites que être basque, ça se traduit par avoir le basque, donc avoir la langue, c'est être. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était très très fort et ça permet de vraiment magnifier un petit peu votre travail dans ce roman, puisque ça propulse la littérature dans son pouvoir vraiment émancipateur, qui est d'ailleurs un thème qu'on retrouve dans vous trois. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, donc à vous trois je dirais merci pour ce beau moment de littérature à chaque lecture.
Et Vivian, vous aviez une question pour Léonore de Récondo, parce qu'effectivement ce travail sur la langue, de mélanger à la fois les styles, presque les genres même, c'est quelque chose qui vous a vraiment intéressé.
Oui, voilà, et du coup vous avez presque répondu déjà, mais effectivement je me demandais si c'était une forme qui était prévue ou si ça s'est imposé, mais comme vous avez dit, ça s'est imposé au fur et à mesure de la construction narrative.
Vous n'aviez pas du tout pensé avant
non.
à cette forme-là?
Non, je n'y ai pas pensé.
À intégrer de la poésie par exemple?
Non,
c'est venu
la poésie elle s'est imposée parce qu'à un certain moment je ne pouvais pas dire autrement les choses. Et aussi parce que je crois que la vérité, quand elle prend plein de formes différentes, elle est un peu protéiforme aussi dans le roman, et qu'il m'a fallu l'aborder, c'est-à-dire qui était ma grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire que l'identité, est-ce que l'identité c'est la nationalité, est-ce que l'identité c'est la langue, puisque les Basques se disent Basques parce qu'ils parlent leur langue, enfin toutes ces questions qui sont extrêmement profondes et difficiles pour moi, pour pouvoir les aborder et tenter d'y répondre, c'était vraiment à travers ces formes-là. Et le livre tel qu'il est aujourd'hui, il est dans la forme première dans laquelle je l'ai écrite. J'ai pas rajouté les poésies après. Et peut-être aussi, il m'a fallu d'autres textes précédents, d'autres romans, d'autres expériences pour pouvoir aujourd'hui, dans une même forme, venir un peu exploser la forme du roman.
Parce que c'est une liberté de pouvoir le faire aussi.
Oui,
c'est vrai qu'on n'ose pas forcément quand on commence en littérature intégrer de la poésie, varier les formes.
Oui, parce que c'est très, le roman c'est impressionnant. On est impressionné par la forme romanesque de rentrer là, de raconter une histoire qui soit claire, d'avoir des personnages qui soient bien construits. Enfin, on se met beaucoup de pression, je pense. Et là, je me suis dit que pour cette histoire-là, il fallait casser la forme.
Antoine Wauters, dans Haute Folie, le narrateur Gaspard explore les journaux de son père Joseph pour comprendre la folie et les errances de sa lignée. Il réalise que l'histoire familiale est un cercle de motifs qui se répètent. Mais dans tout ça, puisqu'on parle de la langue, le langage résiste chez vous. Vous écrivez à propos du personnage de Gaspard, quand bien même il voudrait se défendre, les mots ne sortiraient pas, il ne les possède pas. Comment on écrit un personnage qui ne parle pas ?
Ça, c'est la question de ma vie, en fait. C'est plus que la question de ce livre. C'est que moi, j'ai grandi dans une famille où les gens parlaient très peu, particulièrement les hommes. J'ai à la fin de sa vie, j'ai passé du temps avec mon grand-père qui est allé cultiver une dernière fois son, enfin, retourner, je sais pas, entretenir son champ de pommes de terre, et puis il est rentré chez lui, il s'est couché, et il est resté 3 mois sur son lit, qui allait être son lit de mort, sans parler. Et cette espèce de silence dans lequel j'ai grandi, moi, m'a marqué, en fait. Et dans ce livre-ci, j'essaye de raconter ça, le silence. Alors, avec le seul outil dont on dispose, nous, écrivains, sont les mots. Mais je pense que moi, j'ai depuis toujours un rapport très ambivalent et aux mots et au silence. C'est-à-dire que quand j'écris, je vais chercher un silence qui est au fond du langage. Et je pense que quand on fait l'expérience de la lecture, on va chercher dans les mots autre chose que les mots. De la même manière que le personnage de Joseph, le personnage principal dans ce livre, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de misanthrope, mais je pense que sa misanthropie, c'est aussi une forme d'amour du genre humain. Je crois pas du tout dans l'idée qu'on peut être tout le temps à l'écoute de l'autre. Il a besoin de se replier dans une solitude silencieuse pour pouvoir trouver une forme de parole, une forme d'écriture, et puis une forme de présence à l'autre, une écoute de l'autre, en fait.
Et vous écrivez en silence ? Est-ce que vous
avec de la musique,
Est-ce que vous allez dans les cafés?
Sans musique, mais avec toutes sortes de voix dans la tête et toutes sortes de voix dont j'espère un jour. Et je crois qu'il reste
ça, c'est votre haute folie à vous.
3 livres.
C'est ça.
Dans 3 livres, je serai heureux.
Daniel Bourion, votre narrateur, lui, ne dispose pas de carnet ni d'archives sur son ami. Il marche, il décrit, il nomme, et on a le sentiment que vous écrivez les lieux à la place des mots.
Mais c'est tout ce qui reste, en fait. C'est-à-dire que tu n'as littéralement pas d'image. Le personnage disparu n'a laissé aucune image, puisqu'il n'apparaît même pas sur les photos de classe. Or, tout le monde est sur les photos de classe. Donc, il n'y a aucune image de lui. Et il ne reste plus qu'à parler des lieux, parce qu'en creux, ça va dessiner, finalement... Une fois qu'on a décrit tout un décor, ce qu'on n'a pas pu décrire, finalement, c'est la silhouette de la personne qui a disparu. Donc, j'avais que ce moyen-là pour essayer de retrouver cette personne disparue. Il n'y a vraiment pas d'autres traces.
Et ce qui est difficile, c'est de le raconter lui, mais sans parler pour lui.
Ah ben, ça aurait été criminel, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a disparu, qui, de ce que je sais, toute sa vie, n'a pas eu la parole. Si en plus je venais parler à sa place, ça aurait été scandaleusement honteux, en fait. Je ne pouvais pas faire ça. Je pouvais juste essayer de parler autour de lui.
C'est magnifique, je trouve, ce que vous dites sur la généalogie et le fait que vous n'aimez pas ça, en fait. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait
De ma généalogie
De votre livre, non, un extrait, c'est ça, du livret de famille. Un extrait de votre livre qui parle de ça.
J'imagine que je pourrais aller fouiller un peu, tourner les pages des registres dans les mairies, tracer des lignes entre les noms, dénouer liens et sang. Sur les tables qu'éclairent des lampes prévues pour découper la nuit, celle des années, je pourrais rester longtemps assis à chercher dans les tranches du temps un cheminement. Je n'irai pas, cela ne m'en apprendrait pas plus sur toi, quand bien même je trouverais tes éclairages. De toi, j'ai tout ce que j'ai vu, entendu, peu de ta bouche. C'est suffisant pour construire l'amitié qui peut vivre de moins s'il le faut.
Je trouve très beau ce passage. Je me tourne vers notre libraire, Vivien Bridel. Il vous a plu ce texte, j'imagine?
Oui, absolument. J'ai vraiment éprouvé une énorme tendresse en lisant ce livre, où on retrouve au final une campagne qui n'est pas nommée, puisque ça peut être n'importe quelle partie de la France rurale de nos jours, où on vous voit du coup grandir, on vous voit partager des souvenirs d'enfance, et puis donc, comme vous dites, peu à peu, vos deux chemins qui vont se séparer, et du coup son chemin à lui, qui lui va se faire de plus en plus dans le silence, jusqu'à, et du coup, bah, je vous cite aussi, jusqu'à ce que vous disiez, bah, même les mots qui ne servent plus, on finit par les oublier, jusqu'à atteindre le dernier. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bouleversant, au final. Donc de ce côté-là, très intéressant, et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que... Bah, comme vous dites, c'est pas pour toucher du doigt une question politique ou sociologique, parce que on pourrait voilà employer des grands termes comme la France périphérique, comme. Mais au final, non. Au final, le but c'est vraiment de rendre à l'être humain sa beauté, sa grâce, avec une humilité qui m'a beaucoup touché. Donc de ce côté-là, oui, j'ai trouvé ça très intéressant.
C'est vrai que le mot France périphérique ne figure pas dans votre livre. Je trouve qu'il manque.
Non, mais moi, je fais confiance.
C'est une jolie expression.
Je fais confiance aux lecteurs et aux lectrices, c'est-à-dire je pose un texte qui est un texte littéraire, Et ensuite, je crois vraiment que le lecteur ou la lectrice est capable, si j'ai bien travaillé moi, le lecteur et la lectrice, et si j'ai donné les trames, le lecteur et la lectrice sont capables de parfaitement comprendre de quoi on parle, sans parler de France périphérique.
Bah, la preuve. Vous voyez, c'est vrai que cette démarche généalogique, on pourrait penser, Léonore de Récondo, qu'elle est un peu opposée à la vôtre. En réalité, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas non plus cherché à tourner les pages des registres dans les mairies et tracer des lignes entre les noms.
Non, c'est une question peut-être plus profonde ou plus personnelle, qui est à un certain moment de la vie de reposer la question de qui suis-je. Qui suis-je au regard de ce qui s'est passé? Qui suis-je au regard de ce qu'on m'a transmis? C'est une sorte de bilan un peu étrange, mais je pense qu'il revient. Alors, au début, je sais pas, dans la vingtaine, on a des idées comme ça sur lesquelles on s'accroche. On est très très sûr de soi, de qui on est, vers qui on veut aller, vers quelle personne. Et puis là, au mi-temps de la vie, cette question m'est revenue comme ça. Qu'est-ce que je fais de cette histoire familiale? Et comment je m'engage? Comment je m'engage à continuer avec elle. Donc c'est plus ça par rapport aussi une certaine idée de la liberté, dans le monde dans lequel on est quand même, parce qu'on est traversé par tout ce qui nous entoure politiquement et géopolitiquement. Donc c'est aussi, je pense, c'est pas un hasard si ce livre arrive à ce moment-là de ma vie.
C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais en fait on a là trois livres métaphysiques. Antoine Wauters, vous aussi vous posez la question de qui suis-je?
Oui, enfin le personnage.
Qui suis-je?
Oui, bah oui, complètement, oui. C'est vrai. Et oui, je n'ai rien d'autre à dire. C'est un parcours de vie. On suit le personnage du jour de sa naissance jusqu'au tout dernier. Et ce personnage a beau être très très éloigné de la vie qui est la mienne, j'ai l'impression que c'est le livre où je me suis le plus décrit, dit. Où je me suis parcouru le plus aussi. C'est très étrange, comme il faut parfois en passer par la fiction pour toucher des parts de soi qu'on ne touche pas autrement.
Et par la troisième personne du singulier.
Et c'est la première fois, je pense, que j'écris un livre avec un narrateur omniscient, comme on dit.
Oui, c'est pour ça que ça m'étonne, enfin, ça m'étonne pas, mais, mais que vous disiez que c'est la première fois que vous parlez autant de vous.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Peut-être que j'ai parlé de moi en il, ce qui est encore une fois une ruse, mais très symptomatique. Non, mais voilà, c'est comme ça. Oui, peut-être c'est la première fois qu'on en parle comme d'un livre, nos livres, peut-être comme de livres métaphysiques, mais c'est vrai, c'est les grandes questions de la vie. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce qu'on peut croire en Dieu? Parce qu'il y a la question de la foi qui est très présente aussi.
Léonore de Récondo, Antoine Wauters, Daniel Bourion, on se retrouve dans un instant. On entrera dans vos ateliers d'écriture.
Je
C'était Véronique Sanson, alias Souza, et nous sommes toujours en compagnie de Léonore de Récondo, Antoine Vauters, Daniel Bourion et de notre libraire de Nancy, Vivien Bridel. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Pour ouvrir cet atelier d'écriture, Léonore de Récondo, j'aimerais vous demander de lire un extrait de votre livre, un des moments où vous vous adressez à votre grand-mère.
Tu es encore dans la cuisine. Tu t'essuies les mains, tu t'apprêtes à rejoindre les enfants dans le salon, tes trésors. Le plus jeune, 4 ans, mon père, s'appelle Félix. Il faut bien le nommer. Quand j'écris les 5 lettres de son prénom, il devient un personnage. Quelque chose de lui m'échappe et ne m'appartient plus. Et pourtant, par la grâce de l'écriture, il est là, sous mes yeux, vivant.
Pourquoi ce tutoiement, Léonore de Récondo ?
Excellente question, je ne saurais pas répondre.
C'est pas une question piège pourtant.
Question piège, excellente. Parce que je ne lui ai jamais parlé de la sorte. Et que cette grand-mère avec qui j'ai un très grand écart générationnel, elle est née en 1899. J'ai jamais vraiment pu lui parler et c'est elle qui a ce geste dont je parlais tout à l'heure de l'exil. J'avais envie de m'adresser à elle de femme à femme, alors qu'aujourd'hui j'ai 10 ans de plus qu'elle quand elle s'en va. Et d'abolir comme ça les âges et qu'on devienne fantôme en m'adressant à elle. Elle devient un peu moi et je deviens un peu elle. On entre dans une conversation qu'on n'a jamais eue.
C'est intéressant que vous disiez le plus jeune, 4 ans, mon père s'appelle Félix. Il faut bien le nommer. Quand j'écris les 5 lettres de son prénom, il devient personnage. Daniel Bourion, vous tutoyez vous aussi votre ami. En revanche, vous ne le nommez jamais.
Mais parce que je ne voulais pas tomber dans l'écueil. Il n'y a pas de nom, en fait, dans tout le roman. Et je ne voulais pas tomber dans l'écueil de localiser ou d'identifier les personnages. Parce que mon ambition immense et modeste, c'était d'écrire quelque chose qui soit universel. Donc j'ai absolument.
On peut écrire quelque chose d'universel en mettant des prénoms.
Oui. Mais alors, soit je le nommais directement et ça devenait une espèce de prise en otage de quelqu'un qui est mort.
Donc, non, mais je vais reposer ma question. Est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce que cet ami à qui vous vous adressez en disant tu, est-ce que c'est que lui ?
Non, je pense que c'est tous les amis qu'on oublie, toutes les personnes, enfin amis ou pas d'ailleurs, toutes les personnes qu'on croise, avec lesquels on partage des moments, et pour X raisons, et il n'y a aucun jugement de valeur, puisque je le fais aussi, voilà, il y a des liens qui se créent, les liens se distendent, et puis peu à peu, c'est du sable, quoi. Donc c'est aussi une manière... C'est des très bonnes questions.
Vous allez être prêts demain pour vos interventions, chacun.
Non, mais voilà, oui, c'est un tu universel aussi à tous les gens qu'on a oubliés.
Et Léonore de Récondo, les prénoms, ce sont les vrais ?
Oui. Oui, c'est pour ça que au début, ce passage arrive assez tôt dans le roman. Je me suis posé la question et en arrivant là, je me suis dit bon, il faut quand même bien le nommer. Mon père, non, j'aurais pu lui donner un autre prénom, mais il s'appelle Félix. Peut-être c'est la seule fois. Enfin, je ne sais pas si d'autres fois je le nomme, mais il a fallu le nommer, comme j'ai nommé ma grand-mère qui s'appelait Enriqueta. J'ai mis les vrais prénoms parce que là, ça avait un sens. C'est à eux que je m'adresse.
Vous, Antoine Vauters, vous avez voulu vous inscrire dans la fable. Plutôt avec ce livre, donc nécessairement, on en a parlé, une forme à la troisième personne, un récit ample, presque biblique, c'est ce que vous vouliez ?
Biblique ?
Ah oui, je trouve qu'il y a quelque chose de...
mais moi, en fait, je ne veux rien. Biblique. Je ne veux rien du tout, je veux juste essayer de sortir de moi. En l'occurrence, ici, c'est une histoire que je porte depuis 15 ans, parce que j'ai commencé à l'écrire en 2009. Et je pense pas tellement à ce que ça va produire, être comme objet. Et on dit souvent que mes livres sont pas de vrais romans.
Mais qui dit ça ?
C'est vrai, tout le monde. Enfin, essentiellement la presse. Mais vraiment, à la limite, tant mieux. Parce que pour moi, écrire, c'est à la fois...
C'est quoi un vrai roman ?
J'en sais rien, pas ce que je fais en tout cas vraisemblablement, mais non, c'est écrire, c'est pour moi c'est blesser la langue, c'est-à-dire la travailler d'une manière dont on la travaille peu dans les grands discours qu'on entend de nos jours, et c'est essayer de donner aux mots, de leur rendre leur juste poids. Et alors pour moi, c'est plus un travail effectivement de poète, mais ce sont des narrations chaque fois. Quoi.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Haute Folie, c'est pas un poème. Il y a
non,
une narration, il y a des personnages,
une vraie narration.
Une vraie narration.
C'est mon livre peut-être le plus scénarisé.
Et c'est pas parce qu'il y a de la poésie dans un roman que ça en fait moins un roman.
Non, mais en fait, voilà, ce sont des étiquettes. Ce qu'il y a, c'est que c'est en termes de vente. Si on met poésie sur la couverture d'un livre qui pourrait s'appeler roman, on va en vendre beaucoup moins.
Faudra faire le test la prochaine fois.
Donc voilà, Marmoud ou la montée des eaux, c'était un poème en prose. Il a été estampillé roman. Il a eu une plus belle vie comme ça, mais c'est très cynique.
Oh là là. Je me tourne vers notre libraire, Vivien Bridel. Qu'en pensez-vous de ce que vient de dire Antoine Wauters et après son livre.
Tout à fait. Bah, je trouve que justement ce que vous venez de dire éclaire complètement ce qui m'a le plus plu dans le roman au final, qui est votre style, votre prose. Je trouve que vous avez un style vraiment incandescent avec des mots acérés qui justement, donc comme vous dites, cherche vraiment à entailler pour au final faire émerger le réel, la vérité. Et on a un style qui voilà, va vraiment brûler le personnage principal tout au long du texte. Du coup, un texte qui commence par un incendie, au final, il n'y a pas de secret. et j'ai beaucoup aimé, oui, cette progression pour ce personnage qui va être martelé, mis au feu comme un acte de forgeronnerie, au final. Un personnage qui, de par sa famille, au final, est mal dégrossi, qui, voilà, va forcément grandir de guingois à cause d'une famille dysfonctionnelle, faite de non-dits, de silence, pour vraiment raccrocher avec ce qu'on dit sur la langue. Et oui, ce que j'ai trouvé beau et vraiment très intéressant, c'est que justement ce personnage va se tourner vers l'écriture pour essayer lui-même d'extirper la vérité, pour s'ancrer enfin dans le réel et ne plus être seulement à la marge, ne plus être seulement en train de dériver dans le réel. Donc voilà, vraiment très très bonne expérience et j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, c'est vraiment votre style qui nous happe dès le début et qui nous fait vivre tout ce que vit le personnage au fur et à mesure.
Un style qui plaît beaucoup aux libraires.
Complètement. Oui.
Et ce style, justement, il faut qu'on l'entende. C'est ce qui donne envie de lire des livres en général. J'ai choisi un extrait qui arrive vers la fin et que j'aime beaucoup.
Est-ce que je lis ça, cette petite partie-là ou
tout.
Tout. Ok, c'est des passages différents.
Oui, c'est pas
d'accord.
Grave. C'est un passage qui revient à la fin.
Alors, c'est... Ah oui, c'est juste, effectivement.
Je connais mieux votre livre que...
Je vous jure que je l'ai écrit et que je n'ai pas bu. Tout va bien. Qu'importe si celui qui s'apprête à briser le silence, si celui qui parle après que toute sa lignée s'est tuée, si celui-là est pris pour un menteur ou pour un fou. À ce moment de mon histoire, moi, je ne pouvais plus faire autrement. Les trous d'ombre qui avaient digéré ma mémoire, je devais y plonger. En une semaine, j'ai vendu la maison, un prix bas, mais peu importe, puis j'ai marché jusque chez Ilma, à qui j'ai dit cette chose sincère. Je tiens follement à toi, je pars, mais je reviendrai. Ensuite, je me suis mise en route. J'ai salué la mer.
Alors, vous avez un rapport à l'écriture, tous les trois, qui est très géographique. Et donc, je suis obligée de vous poser la question. Où écrivez-vous, Léonore de Récondeau ?
Un peu partout. J'écris sur des cahiers. Je ne tape pas à l'ordinateur. Et je retranscris au fur et à mesure de l'écriture manuscrite vers le tapuscrit et mon ordinateur. Et c'est un peu au gré des endroits où je suis. Donc, j'ai pas un lieu particulier. Mais par contre, il faut une fenêtre et il faut voir le ciel.
J'adore poser cette question aux écrivains parce qu'en fait, à chaque fois, on me dit non, rien de particulier. Et finalement,
mais si, c'est très précis.
Et finalement, il faut une machine à café, il faut un stylo de telle couleur. Et voilà. Et vous, Antoine Wauters ?
Moi, c'est dans une sorte de pièce qui fait office de bureau, pas de fenêtre, face au mur.
Vous ne pouvez pas écrire ensemble, a priori.
A priori, non, parce que je suis très distrait, j'ai un esprit à facettes. Et donc, si je vois passer quelque chose, ça va me perturber ou cette chose va rentrer dans mon livre. Parfois, c'est pas utile. Donc, un mur qui est un peu un miroir, en fait, qui est un mur qui me renvoie mon image et le sujet du livre. Mais je veux pas être dérangé, quoi.
Mais mettez un miroir directement la prochaine fois.
Non, le mur comme miroir, je trouve ça super.
Daniel Bourion, vous écrivez où ?
J'écris chez moi, dans mon bureau. Enfin, un bureau.
Il est comment, ce bureau ?
C'est un bureau complètement basique que j'ai.
Vous avez quand même un récit qui s'appelle Lieu.
Oui, oui, oui.
Vous avez écrit un récit qui s'appelle
Lieu. En l'occurrence, c'est un lieu très basique, un bureau que j'ai acheté chez Conforama. Ah oui, bon, on est sur la radio publique, donc je dois donner trois. Donc, But et je ne sais plus.
Et Ikea.
Et, Et j'écris à l'ordinateur parce que j'ai une écriture manuscrite absolument épouvantable. Et la fenêtre est sur le côté, mais je la regarde jamais parce qu'en fait, dès que je suis devant un écran, je suis encore jeune de ce point de vue-là, je suis complètement absorbé, quoi. Donc je rentre dans un espace qui est ouvert ailleurs. Et c'est le seul moyen que je peux trouver pour écrire. Sinon, comme Antoine, je ne peux pas écrire dans
un... Donc Antoine Wauters face au mur, voilà. Vous avec la fenêtre à gauche, et Léonore de Recondo face à la fenêtre.
Donc on doit pouvoir occuper le même espace.
Vous devriez vous entendre. Léonore de Recondo, Antoine Wauters, Daniel Bourion, on se retrouve tout de suite pour les conseils lecture de notre libraire du jour, Vivien Bridel. Mais d'abord, on écoute Philippe Catherine, Une chambre à moi.
Chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Des sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un araillitière. Un araillitière. C'est un perroquet tout vert, aussi vert que mon jardin, devant ma chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un araillitière. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne.
Vous écoutez Au Livre, etc. C'est maintenant l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Alors Vivien Bridel, cette rentrée, vous avez eu plusieurs coups de cœur. L'un de vos plus gros, sans doute, c'est le livre de Laurent Mauvignier, dont on parle beaucoup, La Maison Vide, aux éditions de Minuit, qui vient d'être couronné par le prix des libraires de Nancy Le Point.
Oui, tout à fait, on le porte énormément. Et effectivement, je ne pouvais pas venir ici et ne pas en parler à nos invités, surtout que au final, il y a un lien, ça s'intègre dans une même cohérence vis-à-vis de la langue, vis-à-vis du travail de mémoire que vous développez tous les trois. Déjà, on y trouve un piano central, donc je trouve que ça fait un bel écho à Léonore, pour qui la musique, forcément, est très, très importante, et même à la poésie de vous trois, au final. Donc je trouve que voilà, ça fait un petit clin d'œil intéressant. Et pour ce qui est du livre en lui-même, C'est le style, là encore, de Bovignié qui, à moi, m'a conquis. C'est vraiment un style très précis, très minutieux, mais d'une puissance et d'une beauté qui fait que c'est vraiment un grand texte. Objectivement, on ne peut que dire que c'est un grand texte. Et cette maison vide, c'est la maison de son enfance, la maison de sa famille, au final. Maison vide qu'il va remplir d'un monde extrêmement vaste où il va retracer la trajectoire de sa famille, on va le résumer comme ça, et surtout où il va trouver un écho à l'histoire de la France tout entière et trouver vraiment une puissance romanesque qui, comme du coup nos trois romanciers d'aujourd'hui, arrive à éclairer la réalité, arrive à vraiment ancrer le réel dans la littérature. C'est vraiment un livre complet, je ne peux pas non plus trop en dire, je pense que c'est vraiment le type de livre où il faut s'abandonner à la fois.
Oui, parce qu'il est assez long quand même.
Oui, c'est un sacré pavé, on peut le dire comme ça. Mais oui, c'est vraiment le type de texte où si on s'abandonne, on sait immédiatement qu'on vit une extrêmement bonne expérience de littérature.
Alors ça me fait penser à une question. Léonore de Récondo, est-ce qu'on lit la rentrée littéraire quand on est dedans?
Alors, on lit les auteurs avec qui on est invité. Donc, pour moi, c'était une joie de lire les livres. Certains. Alors, on est très occupé quand on est en promotion et en tournée. Donc, des fois, on n'a pas le temps de tout lire. Moi, je lis souvent 6 mois plus tard les livres dont on parle et qui m'intéressent. J'ai acheté le livre de Laurent Bovignié. J'ai envie de le lire. Je ne sais pas si là, maintenant, j'aurai le temps, mais je sais que
souvent, les auteurs lisent un peu en différé.
Voilà, en différé aussi. Bon, on est occupé à voyager. Enfin, on a l'esprit qui est quand même très, très, très pris. Donc, oui, je la lis, mais en différé souvent.
Et vous, Antoine Wauters? Est-ce que vous vous dites je ne lis surtout pas?
Non,
rien,
je butine, c'est-à-dire que je regarde, mais je lis pas les livres entièrement. Mais d'une manière générale, c'est vrai que parfois moi je vais pas au bout des livres. Et là, comme je lis très lentement, je suis dans la rentrée littéraire 2007 à mon avis. Mais elle est super, elle est très bien aussi.
Visiblement le public aussi. Hein.
Donc on parlera du livre de Laurent Bovignié que j'ai butiné, qui est super, mais je l'aurai terminé en 2048, à mon avis.
Vivien Bridel, à Nancy, on a aussi remis le prix Stanislas, un prix qui couronne un premier roman.
Oui, tout à fait. C'est celui d'Agnès Gruda, Ça finit quand toujours, aux éditions de l'Équateur. Là encore, très bon texte. Là encore, plutôt bon pavé. Je crois qu'il fait 560 pages pour les nommer. mais c'est un texte très touchant. On va suivre le destin bouleversant de quatre familles qui vont se retrouver par hasard, au final, mais comme toutes les grandes rencontres, c'est par hasard, dans une maternité de Varsovie, où vont naître 2 enfants, un Adam et une Eva.
Comme par hasard, on en dit.
Comme par hasard, absolument. Vraiment la promesse d'un monde qui va se renouveler devant nos yeux. Sauf que ce monde, c'est celui des années 50, avec toute son instabilité que l'on ne connaît que trop, malheureusement, qui trouve aussi son écho dans l'instabilité renforcée, on va dire, que l'on vit cette année. Et on va suivre les trajectoires de ces 4 familles sur une 60aine d'années. C'est vraiment touchant, c'est un très beau texte, très documenté aussi. On est vraiment plongé dans les bouleversements de ces années-là. Donc, à la fois un plaisir de lecture et en même temps quelque chose de très solide au niveau de l'écriture. Donc, comment être conquis? Comment ne pas être conquis, plutôt?
Agnès Gruda, Ça finit quand toujours, aux Équateurs. Et enfin, dernière recommandation, une romancière lorraine, comme vous, Daniel Bourion, la Vosgienne Maria Pourchet, avec Tressaillir chez Stock, qui figure notamment dans la première sélection du Goncourt.
Absolument, et qui, j'espère, ira assez loin dans la, dans la sélection. Oui, pour le coup, ce roman de Maria Pourchet s'ouvre sur une rupture, un peu comme un caillou que l'on va jeter dans une eau trouble, bon, qui n'était pas trouble, mais qui va justement se troubler suite à ça. Et on va dérouler, on va vraiment détricoter la vie de cette femme. On va assez vite deviner qu'elle est aux prises avec un trauma qui s'inscrit dans l'enfance. Cette rupture va être l'occasion pour elle de partir à la quête de ses origines, de ce trauma, essayer de résoudre tout ça. Et on est au niveau du style sur quelque chose de très drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé son style très acide, où elle ne mâche pas ses mots comme à chaque fois. Mais c'est vraiment très, très savoureux de ce côté-là. C'est vraiment un petit bonbon acidulé. Il y a un petit côté L'amour... non, Sarah, Suzanne et l'écrivain de Eric Reinhardt, sorti il y a quelques années. J'ai retrouvé un peu la même tragicomédie, le même style joyeux et débonnaire, on va dire, qui fait qu'on ne peut que se laisser embarquer et suivre les aventures, voire mes aventures, de l'héroïne principale.
Daniel Bourion, votre livre m'a fait penser, au niveau de la langue, à certains endroits. Pas partout. Justement, à l'écriture de Maria Pourchet, avec certaines tournures de phrases, est-ce que c'est une romancière que vous lisez, que vous aimez ?
Forcément.
En tant que Lorrain, voilà.
Non.
Au-delà de ça. Mais...
C'est pas lié. Oui, je trouve que le mot acidulé est exactement ce qui convient à l'écriture de Maria Pourchet. Après, est-ce qu'il y a une spécificité de l'écriture lorraine ? Je ne sais pas.
Mais il y a un bon vivier, en tout cas.
Il y a un vivier. Moi, j'ai le français n'est pas ma langue maternelle. Je pense. Alors Maria Bourchet vient des Vosges. Moi, je viens d'une région de Lorraine, enfin d'un département de Lorraine où ma langue maternelle c'est le plat, donc un patois lorrain germanique que j'ai oublié. C'est-à-dire que j'ai appris le français à 3 ans. Et dans mon cas, c'est le français. En fait, c'est pas ma langue maternelle. Donc.
Qu'est-ce que ça change dans l'écriture justement ?
Eh ben, j'ai pas de règles. Je m'en fous en fait du français puisque je peux faire ce que je veux. Puisque c'est pas ma langue. Ma langue, je l'ai oubliée, celle d'origine. Et celle que j'utilise, c'est pas vraiment ma langue. Donc je peux jouer avec. Et ça m'a beaucoup touché aussi ce que racontait Elinor sur la question de la langue, en fait. Parce que c'est très présent dans... Alors, non, c'est pas du tout les mêmes langues et les mêmes problématiques. Et je... Alors, par contre, vous n'avez pas oublié la langue basque, je pense.
Non. Non, j'ai pas encore apprise dans ma prochaine vie, tellement c'est difficile.
Ah oui.
Mais c'est vrai que la question de la langue, c'est aussi la question de la poésie, de faire en sorte que même sa langue maternelle devienne une sorte de langue étrangère, ou en tout cas une langue oubliée. Antoine Wauters.
Oui, ben moi j'ai adoré le livre de Daniel pour cette raison-là, parce qu'on sent qu'il y a une liberté une liberté que tu as dans ta manière d'approcher l'histoire. Il n'y a pas de peur, en fait. Et je crois que on a tous et toutes des vies qui sont très bridées, en fait, et peut-être qu'un des endroits, un des lieux où on peut s'affranchir de beaucoup de choses, c'est ça, c'est le lieu de l'écriture. Et donc ça fait moi en tout cas, ça m'a fait du bien de lire ce texte, parce que, et tout en restant extrêmement ciselé, très lisible, très accessible, mais il y a comme ça des espèces de libertés qui sont prises, et j'ai trouvé ça très 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 beau et très réussi.
Vous avez commencé le prochain, Daniel Bourion ?
Oui, bien sûr.
Il y a votre éditrice dans la salle.
Oui. Merci de passer le message.
Pour vous mettre une petite pression. Bon, vous en êtes où ?
J'allais dire c'est terminé, mais c'est jamais terminé. Je pense que tout écrivain, vous lui redonnez un manuscrit, il va le réécrire à l'infini, quoi, jusqu'à ce que mort s'en suive.
Bon, en tout cas, on a hâte de vous relire. Merci Vivien Bridel aussi d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. C'est déjà la fin. Merci aux auteurs du jour, Léonore de Récondo, Antoine Wauters et Daniel Bourion. Je conseille le livre de Léonore de Récondo, Marcher dans tes pas, qui figure dans la sélection du prix André Malraux. C'est ça, André Malraux. Et qui interroge de manière très touchante la mémoire et la création. On recommande aussi le roman d'Antoine Wauters, Haute folie, en lice pour le prix Jean Giono, un livre habité et assez envoûtant, je dois dire. Et enfin, Daniel Bourion avec Le pays dont tu as marché la terre, livre qui m'a ému par son humilité. Vivien Bridel en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est le mot, malgré une écriture très travaillée, ce qui est impressionnant pour un premier roman. Merci également à nos partenaires, puisque cette émission est coproduite par la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Je salue aussi mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Estelle Gap et Ophélie Vivier. Un grand merci enfin au public de l'Opéra de Nancy et au Festival Le Livre sur la Place pour son accueil. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.